France Musique.
Merci beaucoup Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classic Club.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui libère les synapses. Nouvel épisode de notre série sur la liberté, en compagnie de François Ballanche, musicologue qui a choisi de tenter de comprendre ce que la notion de liberté signifiait pour André Boukourechlieff, compositeur et théoricien incontournable, disparu il y a 20 ans, en 1997, et qui marqua toute une génération de musiciens et de compositeurs avec ses œuvres ouvertes, mobiles, peut-être libres, que sont les archipels à la toute fin des années 60. L'occasion de faire le point sur ce qui est de l'ordre de la liberté dans ces compositions dites ouvertes des années 50 et 60 entre John Cage d'une part et Pierre Boulez de l'autre. Alors bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, de petits bijoux de son intimement volés, avec consentement, auprès de personnes sonores anonymes. Une série à retrouver sur le site de France Musique, bien entendu. Et comme chaque mardi, un son qui fait des bulles. Le cri du patchwork, thème numéro 29, épisode numéro 2, séquence numéro 1.
Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Les gargarismes. Mot qui porte déjà dans sa sonorité toute l'étendue sonore qu'il nomme. Gargarismus, en latin, était déjà une forme d'onomatopée pour décrire cette manière de faire des bulles avec de l'eau au fond de la gorge. Acte d'hygiène avant tout, il est surtout un acte très intime. On a rarement envie d'écouter son voisin se gargariser en se brossant les dents. Et pourtant, on rencontre nombre d'occurrences de gargarismes en tout genre dans l'art sonore et musical. Jacques Bérocal, musicien détonnant et libre, use de ses gargarismes dans « Faits divers » au sein de son trio « Catalogue ». Ici, les gargarismes sont synonymes d'une forme d'impossibilité à chanter, à dire. Car vous avez déjà essayé de chanter en vous gargarisant, vous ? Charmant, n'est-ce pas ? Se gargariser musicalement demande une forme de virtuosité pour pouvoir en faire quelque chose de propre. Prenez ce vocaliste hallucinant des City Slickers, le groupe de Spike Jonze. Dans l'ouverture de Guillaume Tell, il interprète d'un seul jet un bout de thème tout en gargarisme, jusqu'à presque s'étrangler. Spike Jonze et ses situations sonores absconses, voici deux utilisations drôlatiques, voire totalement débiles, du gargarisme.
To laugh, hubba 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 hubba, 'cause I'm a happy boy.
Happy boy.
I'm a happy boy.
Happy boy.
Oh, ain't it good when things are going your way? Hey hey.
Les VRP dans un chœur de gargarisme en introduction de La Grosse Papille, puis Happy Boy du groupe The Beat Farmers en 1985, un morceau bien débile utilisé pour la BO du film non moins débile Dumb and Dumber. Bon, c'est vrai que ça paraît compliqué de garder son sérieux quand on entend quelqu'un se gargariser, en particulier sur scène. Immanquablement, le gargarisme sera assimilé à un gag, une petite blague. Et John Cage en a fait les frais. Lors de la création de son concerto pour piano et orchestre en 1958, le tromboniste Stuart Dempster, qui devait réaliser une courte série de gargarismes dans son instrument, en a totalement abusé. Voyant que l'effet déclenchait le rire des spectateurs, Stuart Dempster entreprit de continuer les gargarismes pour le plus grand plaisir de l'audience, mais au grand désarroi du compositeur. John Cage monta sur scène, poussa une bonne colère pour signifier le sérieux de la situation sonore faite de toutes petites touches de son, issues d'instruments ou d'actions du quotidien. Comme quoi, un son qui fait rire peut tout à fait participer au processus sérieux d'une œuvre qui soulève bien évidemment un sourire. Exigeant, c'est sûr.
Thank you.
Se gargariser avec un instrument à vent est tentant. Il y a plusieurs manières de le faire. Mettre de l'eau dans un tuyau ou plonger le pavillon d'une trompette ou d'un trombone dans une bassine d'eau. Alors, on obtient un gargarisme de surface, mais qui reprend le processus du gargarisme de gorge. L'eau empêche les sons de sortir, puisque les bulles d'air contenant chaque son doivent se battre pour exploser dans ce bouillon gargarisant. C'est le cas de cette interlude 4 du disque Bachibouzouk de Arthur H., où la reprise de La vie en rose d'Edith Piaf fait plonger dans l'eau. Hermeto Pasquale dans cet hommage au frère Miles Davis, où le chant à la surface de l'eau crée une voix fragile et intime. Une voix mise à nu, comme si on s'introduisait dans la salle de bain du performeur. Et c'est un peu le cas du compositeur Gerhard Stäbler. Celui-ci a l'habitude d'interpréter lui-même sa pièce semi-improvisée Russian Gold, de 1992, une partition secrète selon ses mots, pour un vocaliste avec un verre d'eau et un gros chronomètre optionnel. Une situation expérimentale et théâtrale qui nous ouvre grand la gorge du compositeur. Oh. On peut également obtenir des gargarismes avec un lavabo. Lorsque l'eau s'écoule dans la bonde, on obtient souvent un gargarisme assez effrayant en fonction de la quantité d'eau évacuée. Le groupe de rock psychédélique Osric Tentacles s'en délecte dans Music to Gargle At, où leur rock le plus hallucinatoire est entrecoupé d'événements de lavabo se gargarisant. Mettre presque en parallèle les gargarismes de lavabo de Osric Tentacles avec les effets sonores qu'ils utilisent à la manière de la dub. On a l'impression alors que tous ces effets sont de petits gargarismes en puissance. D'ailleurs, se gargariser était une expression utilisée au 19e siècle, voire avant, pour caractériser les roulades de certains chanteurs d'opéra. C'est peut-être ce qu'a voulu singer le compositeur russe Sergei Kismatov dans Des Musiques, composé en 2015 pour une soprano sous la douche, en l'occurrence Anna Korsun, vocaliste tout-terrain. Des musiques ou comment se noyer dans sa propre voix entre haut et roulade de vocalise.
Vous voyez qu'on y arrive, hein? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun. François Ballanche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes musicologue, chercheur et doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales sous la direction d'Esteban Bourg et vous êtes en ce moment sur une thèse qui porte le nom « Se libérer soi-même, ne soumettre personne, la question de la liberté dans l'œuvre et les écrits d'André Boucourt-Eschlieff ». C'est un terrain sur lequel vous travaillez depuis longtemps, c'est l'œuvre de Boucourt-Eschlieff, compositeur décédé le 13 novembre 1997, donc il y a tout juste 20 ans. Et c'est vrai qu'on dit compositeur, mais aussi pianiste, musicologue, théoricien. Et on connaît très peu de choses finalement de sa carrière de compositeur, François Ballanche. Moi, en tant que musicologue, en étudiant Boucourt-Eschlieff, on me parle tout le temps des archipels, qui sont des œuvres fondatrices, on va le voir pourquoi. Et pourtant, ça n'occupe que 3 ans de sa carrière de compositeur, de 67 à 70. Qu'est-ce qui fait que les archipels ont autant marqué l'œuvre de Boucourt-Eschlieff, ainsi que tous les interprètes et compositeurs qui ont entouré les archipels?
Oui, alors c'est une bonne question. Boucourt-Eschlieff reste associé, fait partie de ces compositeurs qui restent associés à un ensemble d'œuvres, voire même dans son cas à un type d'œuvre, puisque les archipels sont des œuvres, ce qu'on appelle des œuvres ouvertes. Alors on parle quelquefois de formes mobiles, plus généralement d'œuvres ouvertes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une œuvre ouverte? Très simplement, c'est une œuvre dans laquelle l'interprète ou les interprètes ont une marge de liberté beaucoup plus importante que dans une œuvre traditionnelle. C'est-à-dire que les archipels sont des cartes marines, comme le rappelle Boucourt-Eschlieff dans ses écrits, sur lesquelles vous avez des îlots musicaux que vous pouvez rejoindre à votre gré en respectant certaines règles. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais globalement, la marge de liberté est immense pour l'interprète par rapport à une situation classique dans laquelle on va commencer par le début de la partition et puis terminer avec la fin. Mmh. Et l'agencement des éléments musicaux est fonction de l'interprète et de la volonté de l'interprète dans ces œuvres-là. C'est pour ça que c'était une étape marquante de l'évolution de la musique au XXe siècle.
Oui, mais c'était pas le seul d'ailleurs à l'époque à s'être intéressé à cette ouverture.
Tout à fait, c'était dans l'air du temps. Boucourt-Eschlieff ne revendique d'ailleurs absolument pas l'invention de l'œuvre ouverte. On a des exemples d'œuvres ouvertes d'abord en littérature, dès la fin du XIXe siècle, notamment avec Mallarmé, un peu plus tard avec James Joyce. On a des exemples d'ouverture en peinture également. L'abstraction en peinture a beaucoup favorisé le développement d'une sorte d'ouverture, d'une sorte d'éloignement par rapport aux lois de la perspective, etc. Et en musique, on a des œuvres ouvertes qui précèdent celles de Boucourt-Eschlieff.
On pense à Pierre Boulez en particulier, par exemple.
Pierre Boulez, les Américains, John Cage, Earl Brown, qui ont beaucoup influencé Boucourt-Eschlieff, ont expérimenté l'ouverture avant lui.
Et ces archipels marquent vraiment donc sa carrière, parce que c'est là qu'il va dessiner, parce que c'est vraiment, quand on voit les partitions des archipels, c'est des grandes cartes maritimes, vous disiez. Ouais. C'est des immenses feuilles dans lesquelles on a des petits îlots de musique. Et il le dit lui-même, Boucourt-Eschlieff, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer et que finalement, c'est les interprètes qui vont dire ça se termine à ce moment-là.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que Boucourt-Eschlieff prenait un certain plaisir finalement à se retrouver au moment du concert dans la posture de l'auditeur qui ne sait pas ce qu'il va entendre. Il le dit dans un de ses articles, il le dit quand je vais à un concert et que j'entends et que j'écoute un de mes archipels, je ne sais pas ni comment ça va commencer, ni comment ça va se terminer, ni combien de temps ça va durer. Et il y a une espèce de fraîcheur de la découverte qui est permise finalement au compositeur.
Mmh. Alors, on va écouter un exemple qui est assez particulier parce que c'est le dernier archipel, c'est Anarchipel, voilà. Qui porte un nom qui est une sorte de néologisme entre anarchie et archipel.
Voilà, ce qui est intéressant dans l'archipel, c'est que la métaphore géographique de l'archipel se double d'une connotation politique. Mmh. On est au bord de l'anarchie. C'est le dernier archipel de Boucourt-Eschlieff. C'est là où il est allé le plus loin dans l'exploration de l'ouverture. Il le dit lui-même, il a tenté le diable. On est au bord de l'effondrement de la notion d'œuvre, finalement, puisque la notion d'œuvre suppose a priori une certaine unité. Et dans l'anarchipel, on est vraiment au bord d'une anarchie musicale, c'est-à-dire d'interprètes qui feraient chacun leur chemin, mais sans se retrouver. Et on est au bord de cette anarchie-là.
Thank you. le tout début d'un archipel 1970 d'André Boucourt-Eschlieff. Alors ici, François Ballanche, on entend finalement une musique qui pourrait très bien se retrouver sur une partition écrite du début jusqu'à la fin, avec un devenir vraiment. Alors qu'ici, finalement, les musiciens sont presque tout seuls, isolés sur scène, n'ont quasiment pas de contact, mis à part l'écoute.
Voilà, Boucourt-Eschlieff insiste énormément, dans le cadre de ses œuvres ouvertes, sur la notion d'écoute mutuelle et sur la responsabilité des interprètes, puisqu'il n'y a de liberté pour lui que responsable. Les interprètes sont censés surdévelopper leur écoute quelque part. Ils ne sont plus ensemble de par la partition, c'est-à-dire que la partition n'implique plus de synchronisation, etc. Et c'est à eux de retrouver et de recréer une unité à partir de l'écoute. C'est-à-dire que tel musicien va écouter tel autre et va décider de réagir par rapport à ce qu'a fait tel autre. Ça peut être une réaction de contraste. On peut avoir un discours qui s'élabore par contraste ou au contraire une certaine continuité. Ça dépend du musicien et du tempérament du musicien aussi, du tempérament de l'interprète.
Et c'est vrai que là, par exemple, on entend donc des musiciens qui ont l'habitude de jouer cette musique de Boucourt-Eschlieff, qui connaissent l'esthétique de Boucourt-Eschlieff.
Qui ont travaillé avec Boucourt-Eschlieff.
Voilà, qui ont travaillé et donc, est-ce qu'ils n'ont pas quand même l'envie de répéter aussi finalement ce qu'ils ont pu travailler avec le compositeur? Est-ce que là, on n'est pas justement dans cette limite de la liberté que pourrait proposer la partition d'un archipel?
C'est le grand risque de l'œuvre ouverte. C'est d'aboutir à un résultat qui paraît satisfaisant et de vouloir reproduire ce résultat. Et Boucourt-Eschlieff se méfiait beaucoup de cet écueil et il mettait en garde ses interprètes. Pour lui, il ne fallait surtout pas reproduire quelque chose qui avait déjà été fait. C'était tricher avec la règle de l'œuvre ouverte. Donc il fallait toujours chercher une nouvelle approche de l'œuvre, toujours se laisser porter par une espèce d'intuition au moment du concert ou de l'enregistrement. Et pour lui, c'était cette fraîcheur-là était très importante. Ceci dit, des témoignages de musiciens tendent à prouver que lui-même demandait à certains instrumentistes de commencer par tel ou tel épisode parce que ça sonnait bien. Donc il y a une espèce de contradiction interne qu'on peut comprendre aussi.
Oui, bien sûr, parce qu'en l'occurrence, on pourrait se poser la question de la mise en danger du statut du compositeur face à des partitions comme celle-ci. Je pense à des gens comme Earl Brown et John Cage qui n'avaient pas peur de se mouiller justement dans leur statut de compositeur par rapport à l'interprète. Boucourt-Eschlieff, lui, est-ce qu'il avait justement cette crainte d'être, peut-être d'avoir un rôle amoindri avec des pièces comme celle-ci?
Oui, tout à fait. En fait, Boucourt-Eschlieff hérite d'une notion occidentale de l'œuvre musicale qui suppose une forme d'unité, de contrôle du compositeur également. Et ça, c'est une notion qui n'a pas traumatisé ou effrayé les compositeurs américains qui ont pris des libertés beaucoup plus grandes par rapport à une tradition avec laquelle ils n'avaient pas le même rapport. Et donc, Boucourt-Eschlieff est obsédé par la notion d'unité, en particulier dans ces œuvres-là. Pour lui, en fait, ce qui fait que ces œuvres sont valables malgré leur grande ouverture, c'est qu'elles possèdent une unité interne. Il insiste bien sur le fait que tout est écrit dans les archipels. Les parcours sont libres, mais l'écrit est là, la partition est écrite, la partition existe.
Il y a une forme de réservoir dans lequel le musicien va choisir.
Tout à fait. Alors on peut parler, les procédés de l'ouverture chez Boucourt-Eschlieff ont été bien explorés. Vous avez par exemple un des procédés les plus fréquents, c'est le procédé qui consiste à accoler un réservoir de hauteur et un réservoir de rythme. Et à vous de faire coller telle hauteur avec tel rythme à tel moment, ce qui suppose une virtuosité incroyable de la part de l'interprète. Mais par exemple, ces réservoirs de hauteur sont toujours là, ou quasiment toujours là chez Boucourt-Eschlieff. Ça, c'est très occidental, ce primat de la hauteur, finalement. On peut lire presque toute l'histoire de la musique occidentale comme une succession de bouleversements dans l'ordre des hauteurs. Et les Américains, quand vous avez une partition comme December 1952 de Earl Brown, qui se présente comme une grande page blanche jalonnée de petits rectangles. C'est une partition totalement graphique qui rappelle certaines toiles de Mondrian. Vous n'avez pas du tout cette inquiétude pour la hauteur, pour comment ça va sonner, qu'est-ce que va choisir l'interprète en termes d'intervalle. Ça, c'est quelque chose dont Boucourt-Eschlieff se méfie beaucoup. Il reste vraiment attaché à un primat de la hauteur.
Et c'est vrai que aussi par son métier de musicologue, il a cette déférence aussi par rapport à ses prédécesseurs, parce qu'il a écrit énormément d'ouvrages sur Beethoven, Chopin, Schumann.
C'est quelqu'un qui connaissait évidemment très bien ses prédécesseurs, qui avait un grand respect pour la musique du passé, qui n'a jamais voulu entrer dans une logique de la table rase comme ont pu faire certains de ses confrères à une certaine époque. Et donc effectivement, il héritait de toute une tradition qu'il reformulait quelque part à travers sa propre musique.
Et dont ce fameux scherzo de la 9e symphonie de Beethoven. le tout début du scherzo de la 9e symphonie de Beethoven, ici dans une interprétation d'Herbert von Karajan. Alors, on parlait de liberté, d'ouverture chez Bukureishvili, et ici, on est finalement devant une sorte d'archétype d'une partition totalement déterminée, où la place de la liberté est infime pour l'interprète, quelque part, parce que même le tempo est indiqué chez Beethoven, dès la 8e symphonie, on a vraiment quelque chose de très précis. Là, ici, pourquoi est-ce que Bukureishvili a cette balance entre la fascination pour des musiques hyper déterminées et une musique très ouverte comme celle d'Earl Brown? Il se situe vraiment entre les deux, François Ballanche.
Oui, Bukureishvili parle à propos de Beethoven et en particulier des symphonies de Beethoven de musique oppressive. Hein, il écrit explicitement que les symphonies de Beethoven ont un sens dictatorial, ce qui est un mot très fort.
C'est violent même.
Voilà, c'est très violent. Ce caractère dictatorial, il ne l'associe en fait pas tant à l'interprète qu'à l'auditeur. Hein, Beethoven est un oppresseur pour l'auditeur, pour celui qui l'écoute. Alors pourquoi? C'est une question que je ne cesse de me poser. On a en fait chez Bukureishvili une critique de la rhétorique, une critique du geste. Beethoven, c'est le compositeur finalement de la rhétorique, du geste. On voit bien l'exemple dans ce scherzo. On a une cellule, pam, 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 qui est assénée 4 fois d'abord, donc une fois au timbal seul, ce qui en renforce encore l'impact. Et Bukureishvili va vous dire par rapport à cette musique que finalement elle ensorcelle, elle hypnotise l'auditeur. Beethoven commence par nous ensorceler pour ensuite nous amener, nous emporter là où il le souhaite. Et ce geste-là, cette rhétorique-là, cette espèce de fascination de l'auditeur, Bukureishvili s'en méfie beaucoup. Il trouve ça admirable au plan, sur le plan esthétique, mais il s'en méfie beaucoup sur le plan éthique, morale.
Et c'est pour ça qu'il va finalement aller vers cette forme de libération d'écoute. Est-ce qu'on peut parler d'une libération d'écoute par rapport à sa démarche avec les archipels?
Alors oui, bien sûr. En fait, Bukureishvili développe une sorte de pensée de la liberté musicale au fil de ses écrits. Alors qu'est-ce que c'est que la liberté musicale pour lui? En fait, la liberté de l'auditeur, c'est la possibilité d'agir face à l'œuvre musicale, c'est-à-dire la possibilité d'exercer une écoute active, de faire des connexions entre des événements musicaux, de poser ses propres jalons à travers l'œuvre. Et pour Bukureishvili, il y a 2 critères, si vous voulez. Il y a un critère esthétique. Il va nous dire que les grandes œuvres musicales, ou ce qu'il considère comme les grandes œuvres musicales, sollicitent beaucoup plus l'auditeur que les œuvres mineures. Et en cela, elles lui permettent de faire l'expérience de sa liberté. Donc il écrit dans le langage musical, il y a un passage où il parle de la musique de Vivaldi. Il n'aimait pas du tout Vivaldi, et alors il nous explique, sur du Vivaldi, sur un fond de Vivaldi, l'auditeur peut bavarder, jouer au poker ou faire la cuisine sans problème. Il ne peut pas faire ça avec Bach ou avec Mozart ou avec Beethoven, parce que leurs musiques sont tellement bien écrites qu'elles ne laissent pas d'autre choix à l'auditeur que celui d'une écoute active. Et l'autre critère, c'est un critère historique. C'est-à-dire que, pour Bukureishvili, plus on avance dans le temps, plus on avance dans l'histoire, et plus la musique tend vers un respect plus grand de l'auditeur. La musique tonale, quelque part, enchaînait l'auditeur. On avait toujours un happy end, par exemple, c'est l'expression qu'il emploie, avec une cadence parfaite, finale, etc. La musique atonale commence un processus de libération qui atteint une sorte de point d'aboutissement avec la musique sérielle, qui va solliciter l'auditeur. Et si parfois l'auditeur a du mal à écouter une œuvre sérielle, c'est parce que justement il est trop sollicité. Il ne peut pas encore fournir assez d'efforts pour accéder à cette musique. Et puis, les œuvres ouvertes sont comme finalement le dernier maillon d'une grande chaîne, d'un progrès moral en musique, d'une histoire morale de la musique comme histoire de la liberté de l'auditeur face à l'œuvre musicale.
Ça, c'est assez fou d'entendre ça, de partir de Beethoven pour arriver à ces considérations-là. On a vraiment une histoire de l'écoute qui se dessine avec Bukureishvili.
Tout à fait. Et ça, c'est typique du discours des compositeurs. C'est-à-dire qu'un compositeur tel que Bukureishvili a besoin de justifier sa position dans l'histoire de la musique. Et il a besoin de légitimer l'ouverture qu'il explore. Et donc, il se pose comme un libérateur. Il se crée un mythe, quelque part. Et un libérateur doit être précédé d'oppresseur. Sinon, il n'a aucun intérêt en tant que libérateur. Il n'existe pas en tant que libérateur. Et Beethoven est le tout premier.
Et il arrive même à libérer quelque part Beethoven dans une fameuse œuvre qui s'appelle Ombre, hommage à Beethoven, dans laquelle on va entendre justement un passage, parce qu'il y a certains passages très ouverts, où là, les interprètes ont le choix de piocher dans du Beethoven. Thank you. Un extrait de Ombre, hommage à Beethoven de André Boucourt-Eschleff. Là, nous sommes en 1970, donc juste au moment où il écrit Anarchipel, le dernier archipel. Et on a entendu ici un passage assez fouillis, il faut le dire vraiment, parce que tout le monde se met à choisir dans une sorte de réservoir de petites formules beethoveniennes. Et puis juste après, on entend une stase, vraiment des stases qui sont assez lentes et très tenues, qui sont en fait écrites réellement à ce moment-là. Là, en écrivant pour un orchestre comme cela, est-ce qu'il a voulu quelque part, Boucourt-Eschleff, tuer le maître, tuer le père quelque part de Beethoven, en essayant de montrer qu'on pouvait non pas écrire du Beethoven en faisant du faux Beethoven, mais en faisant du Boucourt-Eschleff avec des bribes de Beethoven?
Oui, alors c'est l'une des rares œuvres de Boucourt-Eschleff et peut-être la seule dans laquelle on trouve comme ça une exploitation du procédé de citation. Mmh. Boucourt-Eschleff se méfiait énormément de ce geste, de ce tic même postmoderne hein, qui consiste à citer et à superposer des citations. Il se méfiait énormément de ça. Il le dit lui-même de son œuvre. Hein. C'est pas un quiz, c'est pas un test sur la reconnaissance de Beethoven, c'est pas un collage. À mon avis, son objectif était double à travers cette œuvre. C'était le sous-titre de l'œuvre est hommage à Beethoven, donc c'était l'objectif principal était de rendre hommage à Beethoven qu'il admirait tant, qu'il connaissait par cœur. On peut, à mon avis, voir également cette œuvre comme une façon finalement de neutraliser quelque part la rhétorique de Beethoven en l'intégrant à l'intérieur d'un langage qui est celui de Boucourt-Eschleff et qu'il considère lui comme libre et libérateur. Mmh. Alors, on peut contester l'idée parce que l'idée du sens dictatorial de Beethoven, c'est surtout aux symphonies qu'il l'associe. D'accord. Et là, on entend surtout des citations de quatuors à cordes.
Et c'est vrai que là, nous en rentrons dans une période assez particulière de Boucourt-Eschleff parce qu'il est entre deux, c'est-à-dire il est entre cette fameuse ouverture qui place un peu le compositeur, l'auditeur et l'interprète sur le même pied d'égalité presque. Et puis à la fois, il retrouve une forme d'écriture déterminée. Et c'est l'exemple par exemple de Train, qui est une pièce de 1974, une pièce pour support fixe, c'est-à-dire musique électronique. Il en avait fait auparavant de la musique électronique.
Il en avait fait longtemps auparavant, 15 ans auparavant, avec deux œuvres, texte 1 et texte 2. Donc, oui, Train est une pièce de musique électroacoustique tout à fait déterminée, tout à fait close sur elle-même. Mais elle est basée sur un texte ouvert, qui est un texte de Mallarmé, un très beau texte que Mallarmé avait écrit au moment de la mort de son fils, âgé de 8 ans. Donc, c'est un texte très sombre. Et Boucourt-Eschleff va travailler finalement sur l'ouverture de ce texte, sur le degré d'intelligibilité du texte. Il y a des passages où on comprend très bien, où on reconnaît Mallarmé, d'autres passages où c'est beaucoup plus complexe pour l'auditeur. Et donc il va jouer sur le texte finalement comme texture. la voix comme texture.
Et en plus, une voix très particulière qui dit les mots, parce que c'est Roland Barthes lui-même qui parle ici la langue de Stéphane Mallarmé.
Voilà, tout à fait. Vous avez deux récitants. Hein, pour Traine, il y a Valérie Brière et il y a Roland Barthes. Roland Barthes et Boukourechlieff étaient très proches. Boukourechlieff a été pendant un temps le professeur de piano de Barthes. Et il lui avait effectivement demandé d'intervenir pour être un récitant dans cette œuvre-là. Alors il y a tout un côté symbolique. Barthes lisant Mallarmé, comme une espèce de pan de l'histoire littéraire et musicale qui se superpose. Et du coup, ça rend l'œuvre d'autant plus émouvante, en fait.
Et je conseille aux auditeurs, aux écoutants, d'écouter toute la pièce qu'on écoutera pas maintenant, mais parce que le dernier mot que dit Roland Barthes dans cette pièce, c'est « j'écris ».
Sentir éclater en nuit le vide immense produit par ce qui serait sa vie, car il ne le sait pas qu'il est mort.
Avec le rond de parole.
Ne le dirai pas. Car alors tu disparaîtrais. Et je resterai seul, pleurant. Toi, moi, mêlé. Toi, te pleurant enfant, en moi l'homme futur que tu ne seras pas et qui reste sans vie ni joie.
Extrait de Traine, composé en 1974 par André Boukourechlieff sur un texte de Stéphane Mallarmé pour un tombeau d'Anatole, une pièce déjà ouverte, un poème déjà ouvert à la base et ici fixé sur un support. Et pourtant, on entend quand même une écriture. C'est pas que de la musique électronique, c'est pas que de la musique électroacoustique. On a vraiment une partie écrite pour le chœur de Radio France par André Boukourechlieff. Et là, il travaille avec une écriture très déterminée, qui est la sienne, en tant que compositeur. On va dire oppresseur, quelque part, en reprenant les termes que vous utilisiez tout à l'heure, François Ballanche. Et à la fois, il écrit une musique de bribes qui nous perd complètement. Il l'active, finalement, notre écoute aussi, même sur un support fixé, en essayant de nous perdre dans ces multiples, on va dire, constellations.
Oui, tout à fait. Pour Boukourechlieff, l'ouverture de l'œuvre, c'est une sorte de point d'aboutissement en matière de libération de l'auditeur, mais ce n'est pas le seul moyen de libérer l'auditeur. Mmh. Vous avez des musiques totalement écrites, totalement closes sur elles-mêmes, qui proposent à l'auditeur une richesse d'éléments qui fait que l'auditeur se sent constamment stimulé et qu'il doit développer une écoute qui est une écoute active, une écoute donc libératrice.
Est-ce que c'est pour ça que finalement qu'il va progressivement laisser l'ouverture pour revenir à une écriture traditionnelle? Parce que les dernières œuvres, là on va écouter un extrait des trois fragments de Michel-Ange, qui date de 1995, donc 2 ans avant sa mort. Et là on entend vraiment une partition traditionnelle dans l'écriture. Finalement l'expérience de l'ouverture a pu peut-être lui montrer aussi les limites de l'ouverture. Parce que on en parlait tout à l'heure en écoutant l'Anarchipel, c'est que donner la possibilité d'ouverture à un interprète, c'est finalement à la fois le contraindre à aller dans une esthétique donnée, c'est à la fois lui faire confiance, mais finalement, on ne sait jamais sur quel interprète on va tomber. On pourrait dire que l'ouverture a un paradoxe réel dans son existence.
L'ouverture a un paradoxe qui est en fait un paradoxe de l'auditeur. C'est-à-dire, est-ce qu'en tant qu'auditeur, on perçoit l'œuvre comme ouverte? Ce n'est pas du tout évident. Je pense que les auditeurs ont pu en faire l'expérience tout à l'heure en écoutant le début de l'Anarchipel. On a l'impression que tout ça est très écrit. On a le sentiment d'une partition écrite. Alors c'est le problème de l'œuvre ouverte en musique, c'est le problème de la médiation de l'interprète. Ce n'est pas l'auditeur qui a le choix, qui choisit l'agencement de l'œuvre, l'agencement des éléments de l'œuvre. C'est l'interprète qui choisit pour l'auditeur. L'auditeur ne fait que recevoir une chose qui a été choisie à un niveau supérieur, qui est celui de l'interprète. Alors, la question c'est, est-ce que l'œuvre ouverte a encore un sens aujourd'hui, alors même qu'elle est moins pratiquée par les compositeurs contemporains? Je pense qu'elle a un sens, parce que je pense qu'il est très intéressant d'avoir la possibilité d'avoir des occurrences différentes de la même œuvre. Je pense que ça, esthétiquement et philosophiquement, c'est une idée très intéressante. Après, est-ce que l'œuvre ouverte est vraiment libératrice pour l'auditeur? On peut en douter fortement. Je pense qu'il y avait, à l'époque de Boukhouresh-Lieff, une sorte de pression d'un contexte intellectuel, avec des penseurs tels que Roland Barthes, Michel Foucault, qui étaient des penseurs de l'émancipation. Donc il s'agissait, en tant que compositeur, de vouloir libérer l'auditeur. Je pense qu'on est un peu sorti de ça, et qu'on peut en tout cas se satisfaire d'une ambition plus modeste, qui est d'avoir une œuvre qui apparaît toujours sous des visages multiples. Et ça, c'est très intéressant.
Et en cela, l'œuvre ouverte se situe vraiment à mi-chemin entre l'improvisation libre, qui est très pratiquée aujourd'hui, et l'écriture totalement déterminée, qui est toujours pratiquée dans les grands concerts.
Tout à fait.
Donc c'est là, justement, qu'on va pouvoir voir un autre visage de Boukhouresh-Lieff qu'on n'a pas beaucoup entendu aujourd'hui, mais qui était très présent dans sa carrière, le compositeur déterminé, qui écrit vraiment une partition du début jusqu'à la fin. Nous allons écouter le premier fragment des trois fragments de Michel-Ange pour voix, piano et flûte ici, un fragment pour flûte et voix.
Thank you.
Le premier fragment de Michel-Ange de André Bocquerel-Schlieff, composé en 1995, là, sa dernière œuvre ici pour flûte et voix. Merci beaucoup François Ballange d'être venu avec toute cette série d'œuvres.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Pour parler de Bocquerel-Schlieff et de cette ouverture, cette liberté. Alors on peut retrouver évidemment les informations sur Bocquerel-Schlieff sur un site qui est très bien, parce qu'il s'appelle Bocquerel-Schlieff.com, qui est réalisé par l'association des amis d'André Bocquerel-Schlieff et qui est toujours actif. On voit vraiment toutes ses œuvres, pas mal d'écrits. On peut suivre vraiment le parcours de cet homme hors normes. Prochainement, vous avez une édition qui va sortir d'une de vos contributions, un ouvrage sur la critique musicale vue par les compositeurs. Ce sera justement la figure de Bocquerel-Schlieff comme critique musicale. Ce sera édité aux presses universitaires de Rennes. Mais également, vous avez participé à un autre ouvrage qui est les entretiens d'artistes de l'énonciation à la publication, également aux presses universitaires de Rennes, édité en 2013. Merci beaucoup et au revoir François.
Merci beaucoup.
Et bonjour Antoine Berland.
Portrait sonore. Antoine Berland.
Faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique? Musique, c'est ma vie.
Bonjour.
Dites bonjour. Bonjour.
Portrait sonore numéro 53. Je peux parler. Sainte-Marguerite-sur-Duclair, mai 2016.
Voulez-vous improviser avec votre voix de manière libre pendant 20 secondes, parler, chanter, murmurer? Bien sûr, je peux parler, je ne fais que ça de ma journée. J'aime beaucoup parler, d'autant plus que dans la bibliothèque, on ne voit pas beaucoup de monde, donc du coup, on ne peut pas beaucoup parler. Donc quand je peux parler, quand j'ai l'occasion, je le fais. Alors pourquoi, je ne sais pas pourquoi je viens de faire ça.
Je
ça
n'est plus que avec les bruits.
Voulez-vous ajouter quelque chose pour qu'on passe un entretien? Je trouve ça très sympa. Désolée si je parle beaucoup trop.
J'aime beaucoup trop vite.
Voilà. Je pense que ça fait sortir le monstre qui est en moi.
And nothing else matters.
Alors moi je m'appelle Mariam et ma mère me chantait quand j'étais petite. Dieu, mais que Mariam était jolie. Quels sons savez-vous faire avec votre corps? Bah, je viens de faire... Ah, oh non, je peux pas faire ça. Faudrait que vous vous retourniez. Je sais très bien. Une fois que je savais très bien péter avec mes bras.
Fin de notre deuxième épisode du Cri du Patchwork sur la liberté. Merci à Perrine Mingui aux commandes et à la réalisation du Cri du Patchwork. Vous avez aujourd'hui à la technique Manu Couturier. Merci à Flora Sternadel, toujours à l'affût du moindre son, et à Antoine Vuillose de la discothèque de Radio France d'avoir mis le nez là-dedans. La semaine prochaine, on continue notre périple dans la liberté par une interview de Philippe Manoury depuis Strasbourg où il prépare la reprise à l'opéra comique de son nouvel opéra Kein Licht, créé tout récemment, dans lequel il questionne la forme même de l'opéra, sa représentation, son lien à la voix chantée, et surtout l'intégration d'un dispositif électronique qui tend à s'autonomiser, à se libérer, pour devenir un interprète à part entière. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet, où vous pourrez également podcaster l'émission ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants,
si je fais 1, Togaram, 1, parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, parap, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est minuit, je passe la main à Ad Montaron et Création Mondiale.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.